Investiture de Donald Trump le lundi 20 janvier 2025. Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. Quel impact à venir sur le marché actions, sachant que dans le programme de Donald Trump, il y a énormément de mesures qui concernent le marché actions et qui sont favorables, mais pas forcément pour tous les secteurs. Donald Trump et marché actions américains en 2025, point complet. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Talk Gain. Ça y est, Trump est là, Trump arrive, Trump est arrivé. Trump prête serment. Alors ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Le lundi 20 janvier 2025 et au-delà, eh bien, ça y est, Donald Trump sera aux commandes d'une seconde administration sous Donald Trump, après celle qui avait eu lieu de 2017 à 2021. Voilà, après 2 mois d'attente, Donald Trump devient donc, après avoir été le 45e président des États-Unis, devient le 47e président des États-Unis. Quel impact sur le marché action américain? Sachant que la doxa s'enflamme depuis sa victoire début novembre 2024 sur le fait que Donald Trump est pro-business, avec un certain nombre de mesures favorables au marché action, je vais être très précis dans cette nouvelle édition du Top Gain. Nous allons tout reprendre, j'ai tout repris, j'ai tout réorganisé du fondamental, de l'analyse technique, 4 parties bien structurées. Nous allons commencer, chers amis, par les projets généraux de Donald Trump qui concernent le marché action. La base, c'est quoi? Vous connaissez la base? Sérieusement, vous connaissez? Faites pas peur, vous connaissez la base de la base. Un programme politique en lien avec le marché action, oui, vous l'avez dit, la fiscalité. Et là, cela fait écho à sa première présidence, où il avait déjà à l'époque baissé le taux d'imposition sur les sociétés, je précise, le taux d'imposition fédéral. Attention aux États-Unis, pour l'impôt sur les sociétés, vous avez l'impôt fédéral et ensuite l'impôt de chaque État, et puis les deux se conjuguent, donc finalement, d'un État à l'autre, l'imposition n'est pas la même, mais Donald Trump a la main sur le taux d'imposition fédéral, qu'il avait déjà baissé lors de son premier mandat, de 35 à 21%. Et donc, là, semble-t-il, le marché attend un décret rapide pour basculer à un taux d'imposition sur les sociétés, taux d'imposition fédéral de 15%. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, dans cette première partie des mesures générales, il y a, je dirais, 2 points forts, 2 angles, 2 pierres d'angle. La baisse de l'imposition sur les sociétés, et bien sûr, la déréglementation. Mais la déréglementation, ça veut dire quoi? Dans quel secteur? Finance, banque, santé, industrie, crypto-monnaie et les autres. Je vais essayer d'être précis, mais donc, effectivement, la base, c'est ça. L'investissement public, le soutien au marché action, l'America First, la protection des industries américaines via les tarifs douaniers, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse de l'impôt fédéral, des programmes d'infrastructures massifs, et donc la déréglementation. Ça, c'est la base, et nous allons commencer par ça. Deuxième partie, S&P 500 et Donald Trump. Qu'en est-il pour cette semaine, pour la tendance de fond? Nous avons des seuils techniques liés à sa victoire depuis novembre dernier. Où en sommes-nous? Je vais tout reprendre sur l'indice S&P 500 dans la seconde partie. La partie chartiste, la partie quantitative, le sentiment du marché, le positionnement institutionnel. Troisième partie, et c'est là où on va rentrer dans les choses intéressantes, où je me suis un peu, voilà, j'ai un peu bossé pour vous quand même. Et c'est bien marrant de dire que oui, Donald Trump, c'est favorable au marché action, la baisse de l'impôt sur les sociétés, etc., etc. Bon. Alors, il faut être plus précis. Vous n'êtes pas sans savoir que les actions du S&P 500 sont classées au sein de 11 super secteurs. Ensuite, il y a des industries, des sous-secteurs, etc. Mais les 500 entreprises du S&P 500 sont classées au sein de 11 super secteurs. Quelles sont dans les détails les mesures promise, prospective, qui pourrait être favorable à tel ou tel secteur. Et ensuite, vous utilisez typiquement un site comme TradingView, où pour chacun des 11 super secteurs, vous avez la liste des actions. C'est comme ça que vous allez faire un bon travail de screening, de recherche, de stock picking. Donc, secteur du S&P 500, quels sont les secteurs à suivre de près? Finance, banque, énergie, je me relis parce que je ne veux rien oublier. TechUS, crypto-monnaie, bien sûr, Bitcoin, construction et l'industrie au sens large, avec un mot aussi sur la santé. Pour chacun de ces secteurs, je vous donne le point de vue actuel de l'analyse technique et vous allez voir, il y, Il y a des choses hyper intéressantes. Et l'aspect fondamental, l'aspect valorisation, est-ce que ces secteurs sont chers ou pas? Et je vous ai trouvé des secteurs à la fois, où d'un point de vue prospectif, on peut attendre des mesures de soutien de l'administration Trump, et en même temps, qui sont sur un support technique et qui ne sont pas chers ou moins chers que, par exemple, les stars de la tech US, d'un point de vue de la valorisation boursière. Il y a des trucs intéressants avec ces indices sectoriels sur lesquels on peut faire l'analyse technique, car je vais aussi vous donner le point de vue de l'analyse technique. Ensuite, quatrième partie, ça va être un peu long cette vidéo, guerre commerciale, risque et opportunité. Et oui, c'est là où effectivement rien n'est clair. Il y a des études qui ont été faites lors du premier mandat de Trump, enfin ont été faites après, sur l'impact de la guerre commerciale finalement sur la croissance économique et le marché action. Globalement, c'est neutre à légèrement négatif. Il y a l'aspect inflationniste, il y a l'aspect logistique, il y a l'aspect bien sûr d'abord mettre en avant les produits américains, mais le temps que ça prend, bon. Risque et opportunité de cette guerre commerciale en lien avec le marché action sera la quatrième partie. Et enfin, cinquième partie, je vais vous redire bien sûr un mot sur les taux d'intérêt du marché qui se sont pour la partie longue approcher de seuils d'alerte importants et donc je vais vous faire le suivi du 10 ans américain. Donald Trump, 47e président des États-Unis, quel impact prospectif à venir pour le marché action en 2025? C'est parti. Chers amis, c'est parti. Donald Trump est là, impact sur les actions américaines en 2025. Bien sûr, alors ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous regardez la vidéo le lundi 20 janvier matin et heure d'Europe occidentale, ben non, Donald Trump n'est pas encore le 47e président des États-Unis. Mais si vous la regardez au-delà et tout au long de la semaine, oui, ce monsieur de, je sais plus quoi, 78 à 79 ans, je me demande, nous, dans quel état physique on sera au même âge, bon, eh bien, est le 47e boss des States. Et donc, les cinq parties que je viens de vous décrire, je vous les ai remises ici à l'écrit. Et nous commençons par la première partie, les projets immédiats de Donald Trump pour le marché action, les grandes généralités. Commençons par les généralités pour remettre la base de la base, et ensuite je vais dans cette vidéo rentrer dans les détails, notamment de l'aspect sectoriel. Alors, quoi de mieux qu'un tableau pour rassembler ce qui est répété partout à tout va, les projets généraux favorables de Donald Trump pour le marché action américain? Les projets de Donald Trump pour les marchés financiers sont nombreux et concernent plusieurs secteurs du marché action. Il y a tout d'abord une mesure générale, la base. La baisse de l'impôt sur les sociétés. En 2017, Trump avait baissé le taux d'imposition fédéral. Alors j'insiste, attention, je parle du taux d'imposition fédéral. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, vous avez donc l'imposition fédérale et l'imposition au sein de chaque État. Les deux se cumulant, mais donc, et ça varie vraiment d'un État à un autre. C'est pour ça qu'il y a une histoire de... Ouais, bref, bon, bref. Mais donc, voilà, Trump a la main sur la partie de l'imposition fédérale. Et donc, il avait baissé le taux d'imposition sur les sociétés de 35 à 21%. Il pourrait le réduire dès les débuts de son mandat à 15%. À suivre. La déréglementation est la seconde mesure phare attendue en particulier pour les secteurs de la finance, de l'énergie et de la santé. La déréglementation, ou en tout cas moins de réglementation, ça va dépendre des secteurs. L'idée étant bien sûr pour Donald Trump d'agir essentiellement en faveur du secteur financier et en particulier en assouplissant certaines règles pour permettre aux banques et notamment régionales d'accorder des financements plus simplement. Alors, Trump souhaite particulièrement favoriser l'activité des banques US nationales et aussi des banques régionales. Je vais vous faire un point sur les banques régionales US dans la partie sectorielle quand on va regarder les graphiques. Bien sûr, les secteurs des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle devraient être aussi favorisés par la nouvelle administration. Je vous rappelle qu'un conseiller spécial a été nommé pour ces deux secteurs, IA et crypto-monnaies, M. David Sachs. Je vous rappelle aussi que le nouveau patron de la SEC, Paul Atkins, choisi par Trump, est fervent, est un défenseur des crypto-monnaies. De manière générale, ce sont des mesures pro-business qui sont attendues pour tous les secteurs industriels de type America First. Il n'y a pas que l'industrie automobile, l'industrie au sens large, la défense, la construction, les matériaux et bien sûr l'industrie pétrolière qui est toujours hyper favorisée. Ce fut le cas par Donald Trump lors de son premier mandat. Pour les GAFAM, c'est plus incertain. Ils souhaitent une réglementation moins stricte. On sait par exemple que récemment les patrons, et notamment les patrons de Meta et d'Amazon, se sont rapprochés de lui. Donc pour les GAFAM, nous allons voir exactement, ça risque d'être vraiment en lien avec le comportement des managements des stars de la tech et leur relation directe avec Donald Trump. Donc réduction des impôts, déréglementation, ça on va y venir plus tard dans la vidéo, la politique commerciale, notamment les tarifs douaniers. Alors, Trump ne dirige pas la politique monétaire ni les taux d'intérêt, mais je vous ai déjà fait des vidéos pour vous expliquer qu'il avait l'arme de la communication publique pour agir sur la politique monétaire, sur le dollar, sur les taux d'intérêt du marché. Des investissements publics, de grands projets d'infrastructures, d'investissement, ça devrait booster le secteur des matériaux et de la construction. Et enfin, régulation technologique, il s'est souvent opposé à une réglementation trop stricte, il est pour la liberté d'expression. On va voir si des choses se font avec notamment Meta, enfin Facebook, mais toutes les sociétés qui appartiennent à Meta, Mark Zuckerberg donc, ou encore Amazon, Jeff Bezos. Voilà donc pour les généralités. Maintenant, deuxième partie, S&P 500 et Donald Trump, quel impact technique? Je vous fais maintenant le gros point technique, chartisme, sentiment, quantitatif, et ensuite, nous poursuivons. S&P 500 et Trump, quel impact technique? On va passer en vue le chartisme, le sentiment et l'analyse quantitative. Chers amis, donc c'est parti. Alors, c'est intéressant de noter que la semaine dernière, alors rappelez-vous, comme d'habitude, donc nous sommes dans une tendance haussière de long terme. J'en attends la fin de la vague impulsive en 2025, lorsque j'aurai ma divergence technique mensuelle. Je ne l'ai pas encore, je l'attends dans la deuxième partie de l'année 2025. Alors, en données hebdomadaires, cet effet l'effet de cette petite divergence baissière a donc entraîné un mois de correction qui semble se terminer au contact ici de la moyenne mobile à 30 semaines, qui est chère à Stan Valstein, et donc nous sommes toujours dans le développement de cette vague 5. Et j'estime donc ici le marché a construit une vague 4. Alors, ça, c'est le plan que je vous propose depuis maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois. La question est, avons-nous la semaine dernière terminé cette vague 4? Alors, S&P 500 et Trump, il faut avoir en tête ce que j'appelle le seuil de la victoire de Donald Trump. Le seuil de la victoire, c'est ce seuil technique ici des 5720 points qui a déclenché donc l'impulsion pour la victoire dans la nuit du mardi au mercredi 5-6 novembre. Et depuis donc une impulsion qui a créé, donc qui a permis d'aller au bout de la 3 de la grande 5. Et nous sommes depuis le 15 décembre entrés dans la sous-vague 4 de la grande 5. Et donc, il reste pour cette année la 5 de 5. La question est de savoir, avons-nous terminé cette structure en vague 4? Alors, moi, je vous ai proposé, alors que tout le monde s'enfermait dans une épaule-tête-épaule, d'ailleurs, qui a été réintégrée davantage, une lecture en zigzag, donc formation classique, formation fractale classique en vague d'Elliott, archi-usuelle. Et donc, le marché a proposé cette structure ici en ABC. La question est de savoir, est-ce que la vague C est terminé. Alors, effectivement, il y a tout d'abord un retracement intéressant. Vous savez qu'une vague 4 retrace 23,6, 38,2, rarement 50% de la vague 3. Là, le retracement a donc été entre 38,2 et 50%. C'est donc un ratio de retracement usuel, et il y a bien donc la structure en trois temps A, A, B, C, B et A. Alors, la C est un peu courte, c'est le souci. Parce que, nous allons donc combiner les facteurs techniques. Et il y a un aspect, je trouve, qui est appréciable, c'est la répétition d'une structure en Ichimoku avec un prix qui a basculé marginalement sous le nuage, mais qui finalement le réintègre à la faveur du lagging span qui a tenu elle le Kumo, exactement comme ce fut le cas ici. Le marché bascule sous le nuage, mais la lagging span, qui est le parrain, hein, contre lequel on ne va pas en analyse Ichimoku, a tenu le Kumo est reparti. Il y avait donc ces deux options, traverser largement le nuage, revenir s'appuyer sur la 200 jours, venir chercher ce gap qui avait été ouvert juste un peu en dessous du seuil de la victoire de Trump, ou terminer avant. Et c'est donc voilà l'option, le marché qui a terminé la 4 ici, ou qui reste encore en développement, avec en fait une C qui ne serait pas terminée, et nous serions là que dans la vague 2 de C. Pour, alors, effectivement, on a une structure ici qui est intéressante, qui fait pencher la balance en faveur d'une vague 4 qui serait déjà terminée. Mais pour vraiment affirmer qu'elle est terminée, il faudrait redépasser les 6000 points. Et donc, combinaison des facteurs techniques, c'est aussi la partie haute du nuage ici du système Ichimoku. Donc, pour une validation définitive d'une fin de vague 4, il faut redépasser la résistance à 6000 points. Toujours dans la combinaison des facteurs techniques, l'analyse du sentiment du marché, avec le réservoir des vendeurs, selon la AII, qui s'est massivement rempli. Et ça, c'est l'analyse contrarienne des marchés financiers. Et le réservoir des acheteurs qui a largement baissé, qui est loin d'être à rabord, c'est plutôt le réservoir des vendeurs qui approche du rabord, et donc forcément qui est sur son plus haut annuel, et qui ne peut que se vider en analyse contrarienne des marchés financiers. Ça va dans le sens d'une vague 4 qui s'est déjà terminée. De la même façon, l'analyse quantitative, avec le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, qui est plutôt en zone basse, et donc là aussi qui va dans le sens d'une vague 4 qui serait terminée. Mais encore une fois, pour vraiment affirmer que cette vague 4 est terminée, nous entrons dans la 5 de 5, il faut dépasser les 6000 points, donc restons prudents. Et nous verrons donc cette semaine la réaction du marché avec donc la première semaine du second mandat de Donald Trump. Les secteurs à suivre de près. Alors, les secteurs à suivre de près, bien sûr, sont les secteurs les plus favorisés par l'administration américaine, par la nouvelle administration Trump, par donc le programme de Donald Trump. C'est quelque chose dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Secteur de l'énergie, en particulier les compagnies pétrolières et gazières, défense et aérospatiale, secteur de la finance et des crypto-monnaies, la construction, industrie pharmaceutique et santé, l'industrie au sens large, la cybersécurité, les baisses d'impôts, la déréglementation, les investissements publics, la déréglementation financière notamment, mais pas que, aussi dans le secteur de la santé, l'industrie au sens large, l'America First. Ce sont donc les secteurs sur lesquels nous allons faire un zoom, à la fois sur le plan technique et sur le plan fondamental. Et vous allez voir que certains sont effectivement intéressants à la fois sur le plan technique et sur le plan fondamental. Mais déjà, de quoi parlons-nous? Vous n'êtes pas sans savoir donc que les actions du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Oui, chers amis, les 500 actions du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Donc, vous les retrouvez ici. Et ici, ce tableau vient de Guru Focus. Et donc, vous avez 68 actions dans le secteur de la finance, 22 dans les matériaux de base, 37 dans la consommation défensive, 62 dans la santé, 32 dans les services publics, 70 dans l'industrie, 22 dans l'énergie, 22 dans communication services, 31 dans l'immobilier, consommation cyclique 55 et la tech 82. Et au total, vous avez donc 500 valeurs. Nous allons nous intéresser à ces secteurs. Alors, effectivement, par rapport au programme de Donald Trump et par rapport aussi à la lecture de son premier mandat, alors il y a aussi des sous-secteurs, bien sûr. Hein, mais c'est donc, je fais un focus sur ces secteurs-là. Et donc, en particulier, secteur de la finance, pour le vaste projet de déréglementation, pour booster, ils cherchent vraiment à booster notamment l'activité des banques régionales, l'énergie, forcément le pétrole, l'industrie au sens large, pas que le secteur automobile, les matériaux, la construction à travers des vastes programmes d'investissement public qui sont attendus, la tech US bien sûr, et naturellement, on va dire, c'est une classe d'actifs à part, mais c'était quand même un sous-secteur de la finance, finance dite décentralisée, le marché des crypto-monnaies, le cours du Bitcoin, qui a déjà énormément progressé depuis la victoire de Trump. Alors, les actions de l'indice S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Déjà, je vous montre, ça peut vous intéresser, comment les trouver. Alors, vous avez tout sur TradingView, vous allez dans cette section, marché, indice, et là, vous avez les secteurs de S&P 500. Et vous retrouvez donc les 11 super secteurs. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons les regarder sur le plan technique et sur le plan fondamental. Le plan fondamental cherche à déterminer si le secteur est cher ou pas cher. Nous, ce qu'on cherche, c'est des secteurs pas trop chers et sur support. Voilà. Les secteurs qui sont archi chers d'un point de vue de la valorisation boursière et qui présentent des divergences techniques baissières ou qui sont sous résistance, on va faire attention. Donc, ce que je cherche, c'est parmi les secteurs mis en avant par le programme économique de Donald Trump, ceux qui sont pas chers d'un point de vue de la valo. Alors, ceux qui sont pas chers d'un point de vue de la valo, je vais me concentrer sur le price earning de Shiller et le PE et le price earning classique. La différence entre le PE de Shiller et le PE classique, c'est que le PE de Shiller compare le prix du marché par rapport à la moyenne des bénéfices passés des 10 dernières années, retraité l'inflation. Et pas uniquement les 12 derniers mois. Le PE forward, c'est les 12 prochains mois, donc c'est encore plus prospectif. Le PE chiller, au moins, ce sont des données actées du passé, on fait une moyenne de 10 ans, on retraite tout ça de l'inflation, et on l'appelle aussi le cap ratio. C'est vraiment celui-là qui est le plus regardé par la haute finance. Donc on va regarder si les secteurs sont chers ou pas, déjà par rapport au S&P 500, et ensuite, est-ce que le secteur est cher par rapport à son historique propre. Donc, par rapport à son historique propre, et par rapport au S&P 500, pour parler un peu anglais. Donc, parmi ces 11 super secteurs, il est donc possible de faire l'analyse technique et d'analyser leur valorisation boursière. Nous allons donc analyser leurs graphiques respectifs et comparer la valorisation actuelle d'un point de vue historique et en comparaison avec le S&P 500. Commençons par le secteur, un des secteurs les plus attendus, le secteur de la finance, où dans le programme de Trump, il y a des projets de déréglementation, de dérégulation massive. Banque nationale américaine, banque régionale américaine, secteur des crypto-monnaies. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur qui est bon marché sur le plan de la valorisation boursière et qui suit en plus une tendance haussière bien construite sur le plan de l'analyse technique. Alors déjà, sur le plan de la valorisation boursière, vous avez ici donc le PE classique et le PE de Scheller du secteur de la finance. Comparé à son historique passé, on voit que, par exemple, à la différence du secteur de la tech qui est sur des nouveaux records, le secteur de la finance est très loin de ses niveaux de valorisation des dernières années. Donc déjà, par rapport à son historique propre, c'est un secteur qui est pas cher. Et lorsque l'on compare maintenant le secteur de la finance par rapport à la moyenne du S&P 500, PE de Schiller de 19,80 contre 36 en moyenne pour le S&P 500, PE régulier de 16,70 contre 29 en moyenne pour le S&P 500, c'est un secteur qui est nettement moins cher. Et ensuite, nous allons le regarder sur le plan de l'analyse technique. Donc, je vous ai montré comment les avoir sur TradingView. Le secteur ici, donc, de la finance. Et effectivement, donc, bougie japonaise, mensuelle, hebdomadaire, journalier. C'est une belle tendance haussière, bien construite, bien guidée par sa moyenne mobile à 30 semaines, avec un RSI weekly qui est à nouveau sur support. Tout porte à croire que d'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental, ce secteur puisse aller plus haut, donc en 2025. Le secteur de l'énergie, alors bien sûr, l'énergie, le pétrole de schiste notamment, c'est un secteur qui est globalement moins cher que le S&P 500 et qui pourrait réaliser un breakout aussi en 2025. Je vais vous montrer le graphique en données hebdomadaires. Alors effectivement, c'est un secteur qui est plus ou moins dans sa moyenne, un peu en dessous quand même de valorisation des dernières années. Ce qui est plus intéressant, c'est lorsque l'on compare au S&P 500, le secteur de l'énergie, on voit, est un peu moins cher que la moyenne du S&P 500 en tenant compte du cap ratio et nettement moins cher en tenant compte du price earning régulier. Et ce que je trouve intéressant, c'est donc sur le plan de l'analyse technique, où vous avez cette belle structure ici. Alors, il est sous un niveau historique, il est sous une résistance historique. Mais on a une structure ici qui peut être lue comme une sorte de structure de continuation. Ici, il y avait une belle divergence baissière mensuelle. Elle a été épurée avec un retour du RSI à 50 en données mensuelles. Et donc, c'est une structure ici qui pourrait être de plusieurs années en plus. Hein. Et en cas de breakout, et en cas de breakout en fait de cette résistance, eh bien, c'est un secteur qui pourrait développer davantage sa tendance haussière. Alors le secteur de l'industrie au sens large, bien sûr, il y a énormément d'industries, de sous-industries, hein, c'est sous-secteur, c'est pas une industrie moins bien qu'une autre. Eh bien c'est une tendance technique bien construite sur le plan technique et qui est vraiment valorisée dans la moyenne en termes de valorisation. Regardez, un cap ratio à 30 contre 36 pour le marché, un PE régulier à 27 contre 29 pour le marché. Et lorsqu'on regarde la valorisation du secteur industriel par rapport à ces données passées, on est en retrait des sommets. Donc là aussi, il peut y avoir quelque chose d'intéressant du côté du secteur industriel, de l'indice sectoriel des valeurs industrielles. Et si je le regarde donc sur le plan technique, c'est aussi une tendance haussière bien construite, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'est haussier, avec un RSI weekly qui réagit bien sur 50, il n'y a pas de divergence. Quelque chose d'intéressant. Alors me direz-vous, ok, c'est bien marrant, mais du coup, quelles actions? Eh bien, je vous renvoie donc vers cette page ici, donc indice secteur S&P 500, et par exemple, pour le secteur industriel, eh bien, vous faites là, vous cliquez dessus, et ici, vous avez les composantes. Et là, vous retrouvez, vous pouvez les classer par cap boursière, par tout un tas de critères, et vous retrouvez les composantes actions de ce secteur industriel américain. Donc, c'est vraiment ici, avec cette petite TradingView, vous avez la possibilité de vraiment aller dans les détails de l'analyse sectorielle et des actions qui composent l'ensemble de ces secteurs. Ensuite, le secteur des matériaux, forcément. Alors, matériaux, et c'est le secteur de la construction au sens large, qui est pareil, qui est une opportunité sur le plan de la valorisation et qui est surtout une opportunité sur le plan technique. Alors déjà, sur le plan de la valo, c'est vraiment un secteur qui est pas cher, qui est moins cher que le marché. C'est un secteur qui, par rapport à son historique de valorisation, est aussi en retrait de ses niveaux de cherté du passé. Donc il y a quelque chose, il y a un sujet de rattrapage ici sur le plan de la valorisation, tant du point de vue du S&P 500 que de l'historique propre de la valorisation du secteur des matériaux, le PE de Schiller et le PE régulier ici. Et je vous ai trouvé un truc sur le plan technique qui est pas dégueu. Sur le secteur des matériaux, vous avez ce superbe support ici en données hebdomadaires. Il y a cette belle ligne de tendance sur laquelle on a un début de réaction. Et donc, je ne serais pas surpris en fait que voilà que cette tendance haussière redémarre. Vous avez ici une sorte de canal et donc qu'on puisse aller chercher en 2025 une partie ici à nouveau un peu plus haute de ce canal haussier sur le secteur des matériaux construction du S&P 500. Et pour accéder aux valeurs, donc vous faites comme ça, vous allez ici, vous cliquez sur le secteur des matériaux, vous allez dans les composants et vous pouvez donc les classer par exemple par capitalisation boursière. Donc c'est assez bien fait. Et là, vous avez donc les composantes principales au sein donc du S&P 500 de ce secteur des matériaux. Encore une fois, ici, marché, indice, secteur S&P 500. Ensuite, vous arrivez ici et vous cliquez sur le ticker. Et ensuite, vous allez dans la section composantes pour avoir le détail. Alors, secteur de la tech. Alors là, je sais, c'est un secteur hyper cher. C'est un secteur très cher, mais qui réalise l'essentiel des bénéfices du S&P 500. On peut noter que Meta et Amazon semblent vouloir se rapprocher de la nouvelle administration Trump. Et de manière générale, Trump souhaite protéger le secteur de la concurrence chinoise. Alors, c'est un secteur, si vous voulez, je pense que même s'il est cher, même s'il est tout en haut, qui va continuer de développer de la tendance haussière, oui, c'est archi cher. PE de Schiller de 57 compte une moyenne de 36 pour le S&P 500. PE régulier de 41 compte une moyenne de 29 pour le S&P 500. Si j'ai envie d'acheter à ce prix-là, je vous l'accorde. Si c'est la première fois, si vous n'êtes pas déjà dessus, bon, c'est un peu compliqué. Vous arrivez peut-être après la bataille, mais c'est encore ici où il y a des perspectives de bénéfices qui sont solides. Donc moi, je serais pas surpris que les Nvidia, que les Meta, que les Amazon fassent de nouveaux records en 2025. Une tendance haussière se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Bon, ça peut tout à fait encore se relancer en 2025, même si oui, c'est un secteur qui est juste hyper cher. Alors, hyper cher, il y a eu un petit reflux fin 2024. Donc, pourquoi pas finalement repousser un peu davantage. Mais oui, en termes de valo, nous sommes sur des records historiques pour le secteur de la tech, qui en plus est beaucoup plus cher que le S&P 500 en général. Et donc, vous pouvez le reprendre sur le plan de l'analyse technique. Le secteur, alors oui, effectivement, il est tout en haut. Oui, ça commence un peu à diverger. Bon, ok, très bien. Moi, ce que je vous dis, c'est que tous les tests de la moyenne mobile à 200 jours s'achètent. Donc, si vous avez l'opportunité d'avoir une des Magnificent Seven, une des stars de la tech, revenir au contact de la moyenne mobile à 200 jours, c'est une opportunité. Ah oui, j'ai oublié, dans le secteur de la finance, n'oubliez pas les banques régionales américaines qui font aussi un superbe renversement haussier depuis la partie basse ici. Et je ne serais pas surpris que les banques régionales américaines, bénéficiant de la dérégulation envisagée par la nouvelle administration Trump, puissent revenir ici au contact de ce sommet de janvier 2022. Et de manière générale, il y a bien une chose, ça, pour la haute finance, tant que le marché se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'est bullish. Et bon, et là, je veux dire, c'est sur le... Tous les retours du secteur de la tech, même des actions des Magnificent Seven au contact de la MM, de la moyenne mobile simple à 200 jours, c'est ici une opportunité. Alors bien sûr, le secteur Bitcoin et crypto-monnaie, ça je ne vous apprends rien, bon c'est pas un sujet que je traite ici sur cette chaîne, mais quand même, Donald Trump a nommé un conseiller spécial à l'intelligence artificielle aux crypto-monnaies David Sachs, il a nommé à la tête de la SEC pour remplacer Gary Gensler Paul Atkins, les deux étant archi favorables aux crypto-monnaies. On attend des détails sur la réserve stratégique de Bitcoin. Il y a énormément de projets, beaucoup d'attentes vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. Et c'est bien sûr une tendance haussière qui a encore du potentiel technique. Et moi, je vous confirme, si vous me regardez sur d'autres chaînes, ma cible minimale entre 128 000 et 140 000 dollars pour le premier semestre de l'année 2025 sur le cours du BTC. Avec en plus, vous avez... pour la première partie de l'année 2025, une répétition de cycle archi favorable. Je compare ici le cycle actuel avec le cycle de 2016 et de 2020 en tenant compte du nombre de jours depuis le halving. Et je ne serais pas surpris que d'ici la fin mars, Bitcoin atteigne de nouveaux records. Alors, ça voilà, pour la partie sectorielle, alors attention quand même à une chose, effectivement, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des mesures pro-marché-action, pro-business de Donald Trump, attention aux effets de la guerre commerciale. Naturellement que Donald Trump, on attend un effet positif, l'impact positif recherché par Donald Trump sur le marché-action. Donald Trump, ce qu'il veut, c'est réduire ça. Il veut réduire le déficit commercial. La Chine, le Mexique, l'Allemagne, le Japon, le Canada, c'est son obsession. Il a le sentiment que ces pays lui volent de l'argent. Avec les droits de douane, Donald Trump cherche avant tout à réduire les importations américaines pour réorienter les flux acheteurs vers les produits américains. Il cherche aussi activement à faire baisser le dollar américain et les taux d'intérêt, même s'il n'a pas la main en direct, c'est la Fed. Il peut, lui, agir via la communication publique. Il cherche donc déjà à protéger le secteur de la tech, électronique, matériel informatique et logiciel, les géants de la tech comme Apple, Microsoft et surtout les fabricants de semi-conducteurs. Il cherche bien sûr à booster l'industrie aérospatiale américaine et à faire face notamment à la concurrence dans le secteur aérien, le secteur de l'énergie, en particulier tout ce qui est pétrole de schiste, gaz naturel liquéfié. Là, il va agir massivement pour soutenir ce secteur et le protéger de la concurrence étrangère. Pour la partie agricole, de la même façon, là, je ne vous apprends rien. Bon, là, l'administration Biden a déjà bien profité de la guerre en Ukraine sur ce sujet. Mais là aussi, pour Donald Trump, c'est important d'avoir un dollar qui ne soit pas trop cher, trop fort, pour augmenter l'attractivité donc, des produits américains, même dans le secteur agricole, mais aussi dans le secteur chimique, pharmaceutique, le secteur industriel au sens large et l'industrie automobile notamment, et notamment se protéger donc de l'industrie automobile chinoise. Donc oui, ça tout le monde a compris les effets recherchés, à la fois à travers les tarifs douaniers, un dollar qui ne soit pas trop fort et des taux d'intérêt qui ne soient pas trop forts. Tout ça, oui, on se dit ça peut soutenir le marché action américain. Mais attention aux contre-mesures et attention aux effets court terme de cette guerre commerciale. C'est compliqué pour les entreprises. Il peut y avoir des risques de la guerre commerciale. Tout d'abord, l'augmentation du coût des importations. Si le dollar se déprécie trop, eh bien, ça augmente le prix des produits importés. De la même façon, les tarifs douaniers augmentent le prix des produits importés. Et ça peut créer des difficultés pour des entreprises américaines dont tout le système logistique est orienté vers l'importation de ces produits en provenance de Chine. Donc, si d'un coup, ces produits deviennent plus chers, ça peut créer, dans un premier temps du moins, des tensions inflationnistes. Le temps que les entreprises se retournent vers les produits américains. Donc, il y a un coût logistique, bien sûr, à ne pas sous-estimer. Et il peut y avoir un effet négatif dans un premier temps sur les marges des importateurs. Donc il faut faire attention à ça. Et effectivement, cela peut dans un premier temps créer de l'inflation. Et qui dit créer de l'inflation, maintenir des taux d'intérêt plus élevés. Et là, ça peut produire un effet négatif sur le marché action du fait de la taux d'intérêt et du fait du maintien d'une politique monétaire plus dure de la part de la réserve fédérale des États-Unis. Alors attention, la guerre commerciale, ce sont surtout des secteurs industriels. Ce sont surtout des secteurs industriels. Je rappelle que l'économie américaine est une économie de services. Donc, les risques inflationnistes liés à la guerre commerciale concernent une petite partie du PIB américain. Donc là, attention. Mais effectivement, vous avez là la guerre commerciale. Il y a une incertitude massive sur les effets que cela va avoir sur le marché action en général, le marché action mondial, le marché action américain. Donc là, l'arrivée de Donald Trump, l'impact sur le marché action, ça va être le sujet de l'année. Il va falloir détailler en fonction des détails, parce que finalement, ces menaces de tarifs douaniers peuvent aussi se traduire par des accords commerciaux avec les pays. Vous avez par exemple potentiellement un nouveau gouvernement allemand fin février, si l'alliance CDU-CSU prend le pouvoir, on sait qu'ils veulent s'entendre avec Trump. Et dans ces cas-là, s'il y a un accord commercial gagnant-gagnant, eh bien ce sera à la fois gagnant pour les actions américaines et gagnant pour les actions allemandes. Donc voilà, mais il y a énormément d'incertitudes par rapport à l'impact de cette guerre commerciale. Je termine par un mot rapide, le 10 ans américain, attention à la zone d'alerte macroéconomique, le seuil des 5% est en vue. Alors, Donald Trump n'a pas d'impact direct sur les taux d'intérêt, ça je vous l'accorde, n'a pas d'impact direct sur les taux d'intérêt, mais il souhaite clairement, à travers sa communication publique, produire un effet de repli. Pour lui, des taux d'intérêt en baisse, c'est pro-business, ça favorise l'octroi de crédit, ça favorise l'attribution de crédit, l'accès au crédit, bon, voilà. Bonne nouvelle, la semaine dernière, des chiffres ont permis un rejet alors que le seuil d'alerte macroéconomique des 5% au-dessus duquel on sait qu'une grosse partie des entreprises américaines ne peuvent pas faire face, rejette. On réintègre ça. Bon, il y a eu une hausse des taux d'intérêt en amont de l'arrivée de Trump, en amont de l'investiture. C'est un peu comme le dollar. Et le marché commence à vendre la nouvelle. Il y a eu des bons chiffres aussi sur l'inflation US. Nous verrons bien. Mais en tout cas, il est impératif pour les actions américaines cette année de ne jamais voir le 10 ans américain dépasser ce seuil. Donc là, on a un début de rejet qui est intéressant et cela sera donc à suivre. Merci à toutes et à tous, chers amis. J'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu et je vous souhaite une excellente semaine.